Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Salute.
Bon dia.
En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel.
Bonjour, vous êtes sur Radio U et vous écoutez Radio Calliope, le rendez-vous mensuel sur les langues et en langue de Radio U et de l'UBO. Je suis Sonia Changina, lectrice de russe à la faculté de lettres et lectrice du Centre des langues Calliope. Aujourd'hui, pour animer cette première émission de 2018, Marlène Jones, lectrice d'anglais, m'accompagne en studio. Bonjour Marlène.
Bonjour Sonia. Nous continuons notre voyage dans le monde des langues et des cultures étrangères. Tout comme l'année dernière, vous pourrez écouter une émission 100% langue chaque dernier vendredi du mois. Dans cette saison 2018, nous allons aborder de nouveaux sujets et découvrir de nouvelles langues étrangères.
Pour ce premier numéro de Radio Calliope, nous mettons à l'honneur la langue russe sous l'angle des célébrations de fin d'année en Russie et autour du monde. Vous vous direz peut-être que ce sujet n'est plus d'actualité car les fêtes de fin d'année sont finies depuis plus d'un mois. Oui et non. Saviez-vous, par exemple, qu'en Russie, Noël est fêté en janvier? Et dans certains pays, tels que la Chine, les célébrations n'ont même pas encore commencé.
Pour aborder ce sujet, nous irons à la rencontre d'étudiants de l'UBO qui apprennent le russe pour leur demander pourquoi ils ont choisi cette langue. Nous allons ensuite parler à une enseignante de russe, et à des étudiants russes à Brest, qui nous parleront des particularités de la langue russe, de leur perception de la France, des célébrations de Noël et de Nouvel An en Russie.
Nous allons poursuivre notre émission avec un reportage autour d'un festival consacré à la célébration du Nouvel An dans différentes cultures. De plus, des étudiants et des lecteurs étrangers à Brest nous parleront des traditions de Noël et du Nouvel An dans leur pays.
Nous allons ensuite partir encore plus à l'Est et voir comment le Nouvel An est célébré en Chine. Dans un reportage spécial de l'événement mensuel Coin Chinois, les étudiants chinois de Brest vont partager avec nous leur projet pour le Nouvel An chinois.
Et comme d'habitude dans l'émission, nous allons présenter une recette de cuisine. Aujourd'hui, nous partons en Russie. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour être au courant de tous les événements sur les langues à Brest et aux alentours dans notre section « L'agenda des langues ».
Sonia, vous êtes lectrice de russe ici à l'Université de Bretagne occidentale. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de choses sur la russe et la langue russe. Je sais seulement qu'il existe beaucoup de différences par rapport aux langues européennes concernant l'alphabet, la prononciation, etc. J'imagine que c'est assez difficile de l'apprendre. Vos étudiants doivent être très motivés pour aborder l'apprentissage de cette langue. À votre avis, quelles sont leurs motivations?
Eh bien, justement, nous allons donner la parole aux étudiants eux-mêmes. Voilà ce qu'ils ont répondu à la question « Pourquoi le russe ?»
Alors, j'ai choisi le russe car c'est une langue très connue et que c'est un pied dans les cultures de l'Est.
Alors, j'ai choisi le russe comme deuxième langue parce que de base, je fais espagnol et je voulais une langue parlée dans les pays de l'Est et j'aime la culture russe.
Moi, j'ai choisi le russe parce que de base, déjà, j'aime bien la culture et aussi c'est dans un but professionnel.
Alors, j'ai choisi russe parce que je joue à Dota 2.
Priyet. J'ai voulu apprendre le russe depuis que je suis allée en voyage à Saint-Pétersbourg avec ma famille. Donc j'aimerais bien éventuellement retourner en Russie, éventuellement y vivre. J'apprends aussi le russe parce que je suis très attirée par ce pays et par la culture russe.
Pourquoi le russe? Eh bien, j'ai choisi de l'apprendre parce que je pense que ça va devenir une langue importante et que ça serait intéressant de savoir la parler. En plus, une amie qui est déjà allée en Russie m'a donné envie d'apprendre cette langue et cette culture.
Le russe, parce que je travaille bénévolement et dans mes recherches auprès de demandeurs d'asile d'Europe de l'Est qui comprennent ou parlent le russe.
Le russe, parce que l'alphabet cyrillique, c'est cool.
Alors, j'ai pris le russe comme langue parce que je trouve que c'est la plus belle langue du monde.
Vous écoutez toujours Radio Calliope et nous venons d'apprendre pourquoi les étudiants français choisissent cette langue dans le cadre de leurs études. Maintenant, demandons à une enseignante de russe quelle a été sa motivation pour étudier et après enseigner cette langue. Afin de vous présenter la pratique du russe à l'université et pour vous introduire la question de l'enseignement du russe en France, nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Katia Dziabka, enseignante de russe à la faculté Victor Segalin. Bonjour Katia.
Bonjour Sonia.
Nous allons également parler à deux étudiants russes qui font leurs études à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Je vous présente Pavel Shishkanov, étudiant en deuxième année de licence en psychologie. Bonjour Pavel.
Bonjour.
Et enfin, je vous présente Zara Gainulina, étudiante en première année de licence en langue étrangère appliquée. Bonjour Zara.
Bonjour.
Évidemment, la langue russe n'est pas la plus facile à apprendre, mais l'enseigner est également compliqué. Notre première invitée aujourd'hui, Katia, peut le confirmer. Katia est traductrice de russe et travaille sur Brest en tant qu'enseignante de russe à la faculté des lettres et sciences humaines Victor Segalin de l'UBO, de l'Université de Bretagne occidentale. Katia, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à enseigner le russe?
Alors, en ce qui me concerne, mon intérêt pour la langue russe, au départ, n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que c'est dû à des origines, mon grand-père paternel. J'ai fait une fac de russe à Rennes. Et ensuite, au départ, je ne me destinais pas forcément à l'enseignement. J'ai travaillé comme lectrice en Russie et en Ukraine. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu l'opportunité de commencer l'enseignement du russe à l'ESC, à l'époque École supérieure de commerce à Brest. Et ensuite à Télécom Bretagne, aujourd'hui UIMT. Et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de continuer d'apprendre et d'enseigner le russe.
Alors, est-ce que le russe et le français sont vos langues maternelles?
Le français est ma langue maternelle, voilà. J'ai toujours été baignée dans la culture et la langue russe depuis ma plus tendre enfance. Mais en fait, c'est une chose d'apprendre, de connaître le discours, le langage de tous les jours, et une autre d'apprendre les subtilités d'une langue. Et pour cela, j'ai fait une fac de russe à Rennes.
D'après l'Association française des russissants, ces dernières années, on peut constater deux phénomènes intéressants. Le nombre croissant des étudiants non spécialistes à choisir russe comme première ou deuxième langue et le succès du russe parmi les adultes. D'après vous, quelles sont les raisons principales de ce succès?
Alors, je pense que les Français ont toujours été intéressés par la Russie. Il y a une proximité, une amitié qui est longue de plusieurs siècles. Et donc, je pense qu'on a toujours, les Français aiment les Russes et la langue russe. Ensuite, c'est sûrement la place qu'occupe aujourd'hui la Russie sur le théâtre mondial, hein, et une importance qui va sûrement grandir au fil des années. Et du coup, ça peut être l'explication de l'intérêt des Français pour la langue russe.
Est-ce qu'on parle russe dans d'autres pays que la Russie?
Oui, bien sûr. On parle russe en Biélorussie, on parle russe en Ukraine, on parle russe principalement dans les anciennes républiques de l'ex-URSS, donc Arménie, Géorgie, les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Mais on parle aussi russe dans les pays baltes. Il y a une communauté russophone qui existe dans les pays baltes. On parle aussi russe au Canada ou en Israël, qui sont des terres d'immigration assez importantes.
Quelles sont les motivations principales des étudiants pour choisir cette langue, à votre avis?
À mon avis, je pense qu'il faut être curieux, vouloir choisir quelque chose d'original, et sûrement aussi être intéressé par la culture russe, que ce soit la littérature, la musique, le cinéma.
À l'Université de Bretagne occidentale, les cours du russe sont assurés par le CIL, Centre interdisciplinaire des langues, anciennement la Maison des langues. Katia, pourriez-vous nous parler plus en détail de comment s'articule l'enseignement du russe à l'université?
Alors, le russe à l'université, ce sont des cours qui sont proposés d'abord aux débutants, des vrais débutants qui n'ont jamais fait de russe. Donc, on va commencer par l'apprentissage de l'alphabet cyrillique et ensuite des apprentissages fondamentaux de la langue, savoir se présenter, parler de soi, voilà. Et nous avons aussi un niveau supérieur qui est la continuité de la première année d'apprentissage, voilà, où on continue l'apprentissage de la grammaire et où on s'intéresse un peu plus à la littérature parce que le niveau le permet.
La formation linguistique à l'Université de Bretagne occidentale est également assurée par le Pôle Langue, un service transversal qui propose aux étudiants de l'UBO des unités d'enseignement libre ainsi que des ateliers de conversation et d'échange en FLE, français langue étrangère en breton et en 10 autres langues. Pavel, vous êtes étudiant en deuxième année de licence en psychologie à la faculté des lettres, mais aussi animateur des ateliers de conversation et d'échange en russe. Depuis combien de temps animez-vous ces ateliers?
Depuis un an et demi déjà, parce que je l'ai commencé l'année dernière, au septembre, et je continue jusqu'à fin de cette année, minimum, peut-être après même.
À qui s'adressent les ateliers? Est-ce que tous les étudiants de l'Université de Bretagne occidentale peuvent y participer?
Oui, bien sûr. En fait, il n'y a aucune obligation, aucun niveau de langue demandé pour les étudiants qui veulent arriver aux ateliers de langue russe et n'importe quel autre, en fait, parce que c'est proposé à tout le monde et c'est tout à fait libre.
Quelle est la différence entre les ateliers de conversation et les cours officiels de langue?
Je crois que les différences générales, c'est qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen, il n'y a aucune obligation à arriver chaque jour, en fait, chaque semaine. Mais autre aussi, c'est que ce ne sont pas vraiment des cours, c'est plutôt une conversation entre l'étudiant étranger et les autres étudiants qui veulent apprendre la langue ou qui veulent parler la langue, vraiment.
Une question pour Katia. Souvent, les gens sont curieux d'apprendre une langue slave, comme par exemple le russe, mais ont tout simplement peur de commencer parce qu'ils la trouvent trop difficile. À votre avis, qu'est-ce qui les démotive?
Je pense que le premier obstacle, c'est l'alphabet. Hein, c'est l'alphabet, mais ce qui est une difficulté au départ est aussi un attrait. Parce que souvent, les gens qui veulent apprendre le russe, c'est justement pour découvrir l'alphabet cyrillique et le connaître. Sinon, les difficultés, c'est aussi peut-être l'image qu'a la langue russe comme langue difficile. Je sais qu'il y a eu un classement qui la place au troisième rang des langues les plus difficiles à apprendre, avec l'arabe et le mandarin.
Katia, en tant qu'enseignante de russe, qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui sont intéressés par la langue, mais hésitent à commencer à l'apprendre?
Alors, je leur dirais, vous êtes curieux? Vous aimez les grands espaces, l'aventure, vous aimez la fête, la musique, le russe est fait pour vous.
D'une manière générale, comment pensez-vous, quelle est l'image de la Russie en France?
Malheureusement, elle est encore très liée aux clichés qu'on peut avoir et qui sont véhiculés le plus souvent par le cinéma. Donc les clichés, c'est la mafia, la vodka, les belles femmes... Voilà, l'ours. Voilà. Malheureusement, c'est une méconnaissance en fait de la culture et des Russes.
Alors, il existe beaucoup de stéréotypes, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup pour vos réponses. Et maintenant, après avoir parlé de choses sérieuses, il est temps de nous reposer un peu et d'écouter une chanson du dessin animé russe, Prostokvashino. La chanson s'appelle «Кабы не было зимы», «S'il n'y avait pas d'hiver». En effet, la Russie ne serait pas la Russie sans hiver et sans neige, n'est-ce pas?
Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали б мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета, от жары устали б мы, надоело б лето. Не пришла бы к нам метель на денек хотя бы, и снегирь не сел на ель, кабы, 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 и снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы.
Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых.
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur 101.1 et aujourd'hui nous parlons à l'enseignante russe à l'UBO. Katia Dziabka et deux étudiants russes qui font leurs études à Brest, Pavel et Zara. Vous venez d'entendre la chanson Kabid Nibdilo Zimi, s'il n'y a pas d'hiver, du dessin animé russe Prostokvachino. Bien sûr, l'hiver et la neige créent le cadre idéal pour des fêtes de fin d'année, en particulier celui de Nouvel An en Russie. Tout d'abord, j'aimerais clarifier la question des dates, parce que je sais que les dates des célébrations ne sont pas tout à fait les mêmes en Russie qu'en Europe ou aux États-Unis. Zara, alors quand est-ce que vous célébrez le Nouvel An et Noël en Russie?
En Russie, on fête le Nouvel An à 31 décembre, comme dans le monde, je crois, sauf que chinois peut-être, et Noël, on fête le 7 janvier.
Savez-vous pourquoi les dates des célébrations de Noël sont différentes? Katia, peut-être vous pouvez répondre à cette question aussi.
Oui, Marlène. En fait, c'est la faute de calendrier. Je dirais la faute du pape Grégoire XIII. Au XVIe siècle, il a voulu changer de calendrier pour rattraper le retard qu'avait pris le calendrier julien, donc de Jules César, sur le soleil. Et donc, le monde occidental a adopté ce nouveau calendrier grégorien du nom du pape. Et par contre, en Russie, l'Église orthodoxe russe a continué donc de fixer les dates des fêtes religieuses selon l'ancien calendrier, le calendrier julien. C'est la raison pour laquelle il y a 13 jours de retard entre le Noël catholique et le Noël orthodoxe russe.
Ah, c'est intéressant ça. Peut-être pour Pavel, j'ai appris que pour la plupart des Russes, le Nouvel An est en fait plus important que Noël. Est-ce que vous savez pourquoi?
À mon avis, c'est plutôt parce que, au fait, le Nouvel An, c'est bon, c'est plus célébré en Russie. Plutôt parce que Noël, c'est, je dirais, en fait, plutôt religieux. Donc, c'est plutôt les gens qui sont vraiment croyants, qui sont vraiment orthodoxes, qui le fêtent plutôt que juste une famille. Oui, une famille générale, je dirais. Voilà.
Ah, okay. Zara, cette année, vous êtes restée en France pour les fêtes de fin d'année. À votre avis, quelles sont les différences principales entre les célébrations en Russie et en France?
La différence, c'est, par exemple, il n'y a pas de neige et il n'y a pas de bonheur de Nouvel An. Par exemple, en Russie, on commence à fêter Nouvel An à fin de journée et on commence de préparer les salades, les nourritures avec notre famille. Mais en France, Nouvel An, c'est plutôt pour les amis, pour être avec les amis pour le Nouvel An. Ouais. Mais
très bien. Donc, si quelqu'un d'autre veut ajouter des autres choses, pourriez-vous décrire un Noël typique chez vous? Est-ce que les Russes fêtent Noël et le Nouvel An en famille ou avec des amis? Est-ce que les célébrations se passent à la maison, à l'église ou peut-être dans la rue?
En Russie, en général, Nouvel An, ça fête avec la famille. Mais par exemple, le jeûne, il fête au début avec les familles, mais après, il peut aller fêter avec des amis, continuer à fêter avec des amis.
Très bien ça. Et comment ça se passe dans vos familles spécifiquement, peut-être pour Pavel?
Dans ma famille, je crois que c'est assez général, c'est comme partout, je crois, en Russie, parce que chez nous, comme on a déjà dit, c'est pas plutôt le soir, mais plutôt le matin, déjà on commence à préparer de la nourriture, même parce que bon, il y a beaucoup de choses à faire et bon, voilà. Et donc on prépare beaucoup de nourriture, de salades, beaucoup de choses. Et c'est déjà le soir, comme à peu près, je dirais, comme une, peut-être 2 heures avant la minuit. On s'assoit avec toute la famille sur la table. On commence à manger parce que, ben, à ce moment, on a déjà très faim. Et après, mais nous, je dirais, on a une tradition. Je crois que c'est assez populaire, mais je connais pas. Bon, mes amis ne le font pas. Chez nous, on a une tradition. Avant la minuit, on crée des petits vœux ou de petits rêves, peut-être sur des morceaux de papier. Et pendant que, bah, au fait, chez nous, pendant la minuit, sur le télé, on peut regarder l'horloge sur la place rouge, qui sont minuit. Et donc, la tradition, c'est que pendant que les horloges le sont, il faut brûler ce petit morceau de papier. Et voilà, ça c'est notre tradition. Voilà.
Katia, vous êtes française, mais vous avez des origines russes. Comment fêtez-vous Noël et Nouvel An dans votre famille? Est-ce que vous suivez plutôt les traditions russes ou des françaises?
Alors, pour être franche, c'est plutôt les traditions françaises. Mais je dirais la notre russitude culinaire va s'exprimer dans les salades, qui sont typiquement russes. Donc la salade la plus populaire, c'est la salade Olivier. Hein, c'est la plus populaire en Russie. C'est une salade qui a été inventée par un chef belge qui avait un restaurant à Moscou au 19e siècle, il me semble. Et sinon, une salade aussi typiquement russe, c'est la salade, c'est l'odka pod shuboy. Si je traduis littéralement, c'est le hareng sous son manteau de fourrure. Donc là, vous voyez déjà la poésie qui s'installe autour de la table.
Zara, pourriez-vous nous dire quels sont les plats typiques de Noël et de Nouvel An en Russie, s'il y a des autres plats que vous avez mangés déjà?
Comme déjà disait Katia, c'est les salades traditionnelles, olivier et selt patchouli. Mais en plus, je crois que c'est presque tout le monde prépare poulet avec des patates dans le four. Et ouais, c'est tout, je crois ça.
Et enfin, la question la plus importante. Est-ce que vous avez un Père Noël en Russie et comment s'appelle-t-il?
Oui, bien sûr, nous avons le Père Noël. En russe, c'est Ded Moroz. Et il a encore une petite fille qui s'appelle Snegurochka. C'est pas comme Santa avec sa femme, c'est petite fille qui s'appelle Snegurochka.
C'est très bien ça. Est-ce qu'il y a des autres différences entre Ded Moroz et de Père Noël français ou Santa Claus? Il a un petit fils, mais est-ce qu'il y a des autres choses un peu bizarres peut-être?
En fait, je crois que tous les Pères Noël, ils sont les mêmes un peu, mais c'est une petite différence de femme et petite fille, je crois. Ouais.
Parfait, c'est vraiment intéressant. Merci pour vos réponses, Katia, Zara et Pavel. Nous allons revenir vers vous après une autre pause musicale. Cette fois-ci, c'est le groupe russe Diskoteka Aviara avec la chanson Novogodnaya, la chanson de Nouvel An.
хорошо слышу. Собственно, я Дед Мороз, борода и сваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на...
Vous écoutez toujours Radio Calliope sur 101.1 et nous sommes toujours en studio avec Katia, Pavel et Zara. Nous venons de parler des célébrations de Noël et du Nouvel An en Russie avec nos invités. Et maintenant, après les fêtes, nous revenons à la vie quotidienne pour apprendre comment elle se passe pour vous depuis que vous vous êtes installé en France. À Pavel, tout d'abord, une question que tout le monde pose aux étrangers ici. Pourquoi avez-vous décidé de faire vos études en France ?
Bah, au fait, c'est une question assez difficile pour moi parce que l'histoire n'est pas très... Bon, il n'y a pas très beaucoup de raisons, en fait, parce que je voulais en général faire mes études en Europe et j'avais juste deux amis qui voulaient partir en France et je disais que ça sera plus facile, peut-être, de partir avec quelqu'un que je connais déjà. Et en général, ça, c'était les raisons parce que, bon, je suis arrivé ici avec ma meilleure amie et je crois qu'au début, malgré que maintenant, elle n'est pas à Brest, mais ça m'a aidé beaucoup parce que il y avait toujours une personne à qui je pouvais parler, au fait.
Très intéressant. Zara, et vous ?
Moi, j'étais en France 3 ans avant. J'habitais ici 5 mois. Et après, quand je suis venue en Russie, j'ai décidé que je dois revenir en France pour faire mes études à l'université. J'ai tombé amoureux en France et c'est pour ça que je suis venue ici. Voilà.
Une autre question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu beaucoup de fois. Pourquoi Brest et la Bretagne ? Pavel ?
Pour moi, c'est encore une fois à peu près la même réponse. Moi, c'est parce qu'en fait, il fallait choisir pour l'université 3 villes en France, en ordre de préférence, en fait. Et Brest était premier parce que... C'est pas très agréable un peu, mais j'allais en médecine et au fait, Brest, c'était la ville en France qui avait le pourcentage le plus élevé des étudiants qui passaient aux deuxième année de médecine. Donc pour moi, c'était comme des chances. Bon, c'était une mieux chance que par exemple ici, c'est 25%, à Paris, c'est 5%. Donc évidemment, ici, c'est mieux. Mais de plus, j'ai bien aimé aussi la ville parce que j'ai regardé les photos. Ici, à côté, il y a la mer, il y a... Et c'est pas très grand. C'est pas très grand, c'est pas trop petit non plus. Donc c'est... Bon, malgré que initialement c'était pas à cause de la ville vraiment, mais maintenant, j'aime bien Brest, j'adore Brest. Donc je suis très content que je sois venu ici, au fait.
Zara et vous, pourquoi Brest et pourquoi la Bretagne?
Pour moi, il fallait aussi choisir trois universités, trois villes. Et moi, j'ai choisi Brest comme troisième université, ville. Et c'est seulement Brest qui, l'université à Brest qui m'avait inscrit. Et c'est pour ça que je suis venue ici, mais je ne regrette pas. Et moi, j'aime bien Brest.
Super. Est-ce que vous parliez déjà français avant de venir en France ou est-ce que vous l'avez appris ici?
Moi, j'ai commencé à l'apprendre, deux ans avant de partir en France parce que moi, j'avais besoin de ça pour aller à l'université. Et voilà, donc oui, je parlais avant aussi.
Moi, je n'ai jamais appris français en Russie. J'ai appris français quand j'étais ici, trois ans avant. Mais je ne parlais pas très bien, je parlais plutôt anglais que français. Et maintenant, je suis ici 5 mois et j'ai commencé à apprendre français ici.
À votre arrivée en France, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a choqué dans le sens positif ou négatif du terme?
Pour moi, je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de choc négatif, mais il y avait un truc qui m'a surpris un peu. C'est un peu bizarre peut-être que je vais le dire, mais... Ce qui m'a surpris, c'est qu'ici, en France, dans les établissements plutôt bureaucratiques, comme la banque ou CAF, par exemple, ou tout ce qui est en lien avec bureaucratie ou quelque chose comme ça, les gens sont toujours très, très, très gentils. Et pour moi, c'est très bien d'aller dans des places comme ça, parce que pour moi, c'était toujours comme... Si j'allais à la banque, par exemple, en Russie, c'était toujours... Bon, je ne voulais pas vraiment aller parce qu'il y aurait des queues, il y aurait beaucoup de gens, et ce ne serait pas très agréable. Mais ici... J'aime bien aller dans des places comme ça parce qu'il y a toujours des gens qui me sourient, il y a toujours des gens qui sont très gentils. C'est pas qu'en Russie, ils ne sont pas très gentils, mais je sais pas, il y a une différence. Je sais pas, je peux pas vraiment expliquer ça. Donc pour moi, c'était un choc un peu positif, je dirais.
Mmh. Zara, et vous?
Je peux dire que ça m'a choqué que les gens à la maison sont toujours avec des chaussures. Parce qu'en Russie, on n'est jamais... On n'est jamais entre à la maison avec chaussures.
C'est vrai.
Ouais. Et c'est un peu la même comme Pavel. J'étais choquée que tous les gens, ils sont gentils, toujours avec sourire. Et c'est très, très génial.
À votre avis, y a-t-il beaucoup de différences entre les mentalités et les cultures russes et françaises?
Encore une fois, si on parle des sourires, au fait, des gens qui sont... C'est pas que les gens ici sont... plus gentil, c'est plutôt que ici les gens, c'est que les gens sont plus gentils, c'est que tout le monde sourit toujours et c'est pas que, en Russie, c'est pas vraiment une tradition parce que, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient qu'au fait, c'est pas très bon qu'en France, tout le monde sourit toujours parce qu'ils disent qu'au fait, ils cachent quelque chose toujours, mais moi, je suis pas d'accord en général parce que, par exemple, mes amis, ils vont me dire si quelque chose ne va pas bien, mais si j'arrive par exemple dans un magasin ou quelque chose comme ça et quelqu'un me sourit, c'est juste très gentil, c'est très agréable pour moi et moi je souris aussi parce que c'est juste gentil, c'est juste politesse à mon avis. C'est pas que quelqu'un cache quelque chose. Voilà.
Pour moi, c'est par exemple la mentalité de nourriture. Les Français, ils mangent très longtemps. Il y a beaucoup de plats, entrées, plats, desserts, après petit café. Mais en Russie, toute la nourriture, elles sont dans la table, les desserts, plats et du thé, très important. Ouais.
Et maintenant, encore une question. Quelles sont, à votre avis, les principales différences entre les études en France et en Russie?
Pour moi, la différence la plus grande, je crois que ici les étudiants sont plus libres à choisir ce qu'ils veulent apprendre parce que, par exemple, moi maintenant, comme je suis en psychologie, mais si je veux changer ça, l'année prochaine, je peux aller par exemple en économie ou quelque chose comme ça parce qu'ici il n'y a pas vraiment de restrictions de changer les facultés si je veux aller en licence. Malgré que en Russie, par contre, il faut déjà savoir idéalement dans quelle université tu veux aller et quelle matière tu veux choisir, comme à peu près 2 ans avant la fin d'école, parce qu'il faut passer les examens gouvernementaux. Après l'école, il faut les choisir. Par exemple, moi, comme j'ai passé biologie et chimie, je peux aller en Russie seulement en médecine, biologie ou psychologie, je crois. Et c'est tout. Et bien sûr, on peut passer tous les examens. Personne ne veut se préparer à comme une dizaine d'examens. Donc ça, c'est la différence la plus grande pour moi, je crois.
Pour moi, c'est la même chose, mais en plus, l'évolution des examens, c'est un peu différent. En France, on doit attendre beaucoup de temps pour moi, pour savoir tes notes. Mais en Russie, tu as reçu tes notes exactement après que tu passes l'examen.
Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants étrangers qui viennent en France pour la première fois?
De ma part, je dirais que le conseil, c'est de ne pas être effrayé, de demander à quelqu'un de trouver les gens qui peuvent t'aider. Parce que si tu arrives, par exemple, en France, et même si tu arrives seul, et si tu as juste, par exemple, 17, 18 ans, comme moi, quand je suis arrivé, et je suis arrivé seul, donc j'avais beaucoup de questions, en fait. Par exemple, où aller à l'université, ou comment faire les inscriptions administratives, pédagogiques, tout ça. Donc, il y a très beaucoup de questions avec les études, avec la vie quotidienne en général en France. Et je dirais que ma conseil, oui, c'est de ne pas être effrayé, de demander à quelqu'un de t'aider, parce qu'il y aura toujours une personne qui va heureusement t'aider, même si tu ne parles pas vraiment bien français ou quelque chose comme ça.
Et moi, je voulais ajouter, tu peux trouver quelqu'un de ta nationalité qui est déjà habite en France dans ta vie pour t'aider. Que j'ai fait la même chose.
Oui, ça marche aussi. Oui.
Merci beaucoup pour tous vos conseils aux étudiants étrangers qui souhaitent s'installer à Brest. C'est une communauté multiculturelle qui réunit des gens de différentes cultures avec des traditions uniques. Katie Foley, lectrice d'anglais, nous a fait un reportage sur la célébration de Nouvel An par de différentes cultures qui se rencontraient ici en France.
Est-ce que tu peux me dire ton nom et prénom et ce que tu fais pour l'association?
Je m'appelle Erwan Menuet et je dirige le centre social Horizon Léo Lagrange.
Et alors, c'est quoi exactement le travail de l'association en général?
Un centre social, c'est un équipement de quartier. Donc c'est un équipement qui est au milieu d'un quartier qui est conventionné avec la CAF. C'est-à-dire que dans la façon dont on fonctionne, on ne peut pas dire qu'on est centre social comme ça. Il faut que la CAF nous donne un agrément. On a plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est de participer à l'animation du quartier. Okay. Un deuxième objectif, c'est de proposer un lieu où les habitants peuvent trouver leur place, faire des propositions. Et dans l'idéal même, pourquoi pas s'émanciper. C'est-à-dire réussir à prendre conscience, à saisir d'une partie des choses de leur environnement et pouvoir agir dessus. Donc le centre social, c'est un des... Enfin, met une équipe en place pour essayer de participer à ça. Et en plus, on essaye de répondre aux besoins et aux envies qui ont été repérées par les habitants dans différents domaines. Le besoin, ça peut être par exemple un besoin de garde. C'est pour ça qu'on a un centre de loisirs ou un secteur jeune. Mais aussi des envies comme la fête qu'on fait ce soir... Voilà, des choses très différentes.
Alors, c'est quoi exactement la fête? C'est quoi le but? Est-ce que tu peux juste écrire pour le monde?
Alors la fête ce soir, c'est une demande des habitants qui voulaient qu'on fasse une fête sur la fin de l'année ou le début de l'année. Des fêtes, il y en a déjà eu de cet ordre-là sur ce quartier. L'an dernier, on a fait Yenayer. Yenayer, c'est le nouvel an des Berbères.
Ok.
Et on s'est dit cette année qu'il y avait d'autres passages d'année qui avaient lieu. Il y a plein d'endroits, le changement où on bascule d'une année sur l'autre, c'est pas tout à fait à la même date. En général, c'est sur cette période de l'année, enfin souvent sur. Et qu'on s'est dit que plutôt que de se limiter à un nouvel an, on pouvait se dire que on allait en fêter plein en même temps et qu'on allait proposer aux habitants qui le souhaitent. Donc c'est une idée d'habitants qui arrive au centre social parce qu'on nous en parle et puis ensuite nous on en parle aux habitants en disant si vous souhaitez organiser cette fête avec nous, n'hésitez pas à venir. Donc on a fait quelques réunions pour ça et on a pris un DJ parce que ça va être une soirée, donc il va y avoir un petit concert. avec à partir d'une formation qui s'appelle Brest Babel Orchestra, qui a travaillé avec des habitants du quartier et avec entre autres un poète du quartier pour mettre ses poèmes en musique. Donc on va avoir ça, on va avoir du chant choral, et puis ensuite une soirée dansante. Pour la soirée dansante, on a pris un DJ, mais on lui a demandé de venir avant sur le quartier pour que les habitants puissent amener des musiques qu'ils ont envie d'entendre. Okay. Avec l'idée que, voilà, si les gens le souhaitent, ils puissent avoir des propositions. Et pour le coup, vu qu'on a plein de cultures différentes, notre idée était qu'on ait plein de musiques qui viennent de plein d'endroits. Et puis, avec qui puissent faire ressortir des nuances qu'on ne saisit pas forcément. Moi, entre la musique tunisienne ou la musique marocaine, moi, je suis incapable de faire la différence, en fait. Sauf qu'en effet, quand on vient de Tunisie ou quand on vient du Maroc, bah, ce n'est pas tout à fait les mêmes sons. C'est logique, quoi. Ouais. Donc ça permettait aussi de travailler sur ces questions-là, d'avoir des choses diverses en s'appuyant sur une compétence d'un DJ qui est capable d'animer une soirée.
Alors pour commencer, est-ce que je peux vous demander de me dire vos noms juste pour l'avoir sur l'enregistreur?
Corinne.
Ok, enchantée.
Christine.
Christine, enchantée.
Babette,
enchantée. Vous avez hâte pour la fête ce soir?
Oui, parce qu'on attend ça avec impatience.
Pourquoi vous êtes venu ce soir à la fête au Centre Horizon?
Alors, pour se rencontrer, pour...
passer une bonne soirée.
Oui, passer... Voilà.
Passer une bonne soirée.
Une bonne soirée,
ouais. Du renouveau dans le centre social, énormément. On refait beaucoup de choses qui le centre social a été brûlé, donc on refait beaucoup de choses, des orchestres, des centres de loisirs créatifs, enfin beaucoup de choses. Et puis je trouve que c'est ça, c'est formidable. On voit des gens, on fait des rencontres avec d'autres gens, voilà, de tout pays en fin de compte. C'est formidable.
Alors qu'est-ce que vous avez fait pour célébrer les fêtes de fin d'année, cette année chez vous et bon, en général?
En famille. En famille, oui.
En famille, oui.
Voilà.
Et nouvel an, c'est plutôt... les enfants, ils font ça entre amis. Parce que nous, on est un peu trop vieux maintenant.
Toi.
C'est fait que c'est moi.
Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et... votre nom.
Alors, mon nom, c'est Ben Abdallah Ahmed. Le prénom, c'est Ahmed.
Pourquoi vous êtes venu ce soir à la fête au Centre des Horizons?
Bon, pour venir ce soir, parce que je suis le président de l'association algérienne pour les relations interculturelles. On a le bureau de l'association, il est ici dans le quartier de Pantanizan, depuis 78. Et c'est pour ça que moi, je participe, notre association, disons qu'elle est membre actif de plusieurs associations à Brest, et puis même en dehors de Brest, parce que nous, on a quand même 200 adhérents, quoi.
Est-ce que vous venez de Brest ou d'ailleurs?
C'est-à-dire que ça va être... Si je vous dis d'où je viens, ça va être long, ça va être pendant une heure. Moi, je ne suis pas de Brest du tout. Moi, je suis algérien et je suis venu de l'Algérie pour travailler ici en France en 1954, en octobre 1954. Et puis, j'ai travaillé un peu partout en France. Et je suis venu pour s'installer complètement ici le 2 décembre 68. Et depuis, je suis ici.
Alors, notre émission, 7 mois pour la radio, il sera surtout des fêtes de fin d'année et les fêtes en général, comme holidays, les jeux fériés. Alors, qu'est-ce que vous et votre famille, qu'est-ce que vous avez fait pour célébrer les fêtes de fin d'année, pour célébrer en général
C'est-à-dire que moi, maintenant, je vis tout seul, j'habite tout seul et puis je vis tout seul. Ça fait déjà depuis 2003 que j'habite tout seul. Et puis, d'accord, il y a mes filles qui viennent pour les fêtes me voir, mais c'est dans la journée. Tandis que le soir, je ne sors pas beaucoup. Et puis, les fêtes, je les passe chez moi. Voilà.
Thank you.
monde.
Nous avons écouté un reportage de Katie Foley, lectrice d'anglais, sur le festival consacré à la célébration du Nouvel An dans différents pays qui a eu lieu au Centre social Horizon à Brest. Et maintenant, pour continuer sur le sujet des célébrations autour du monde, nous allons écouter ce que les étrangers récemment installés à Brest disent sur la célébration de Noël dans leur pays natal. Un sujet réalisé en collaboration avec Anas Kaldi, étudiant à l'ENIB, École nationale d'ingénieurs de Brest.
So in the States, for Christmas, which is one of the main holidays that people celebrate, you usually put up a Christmas tree with your family and put on lights and different ornaments. And then on Christmas Day, you would have a family dinner and open your presents. For my family, we would cook waffles in the morning and then open presents. And then for New Year's, I think like in many cultures, you usually have a party, and at midnight, everyone makes a cheers, makes a toast with champagne, and you kiss the kind of closest person next to you. How I'll hate going
out in the storm. Bueno, en Argentina, tanto en Navidad como en Año Nuevo, lo más importante es reunirse y reunirse en familia. Por eso lo hacemos con un gran asado a la parrilla, al que intentamos acompañar con comidas frías o no tan pesadas, ya que el clima no ayuda, hace mucho calor, estamos en verano. Y lo más importante, tanto en Navidad como en Año Nuevo, es el brindis de medianoche.
Hi, I'm Helen. So I'm from the north of Ireland, and I'm going to just say a few things about me and my family and I normally celebrate Christmas. So family is a huge part of Christmas. So my grandmother would normally come over from England and we would all be together, which is really, really nice. And on the actual day, we have in the morning, we usually exchange presents. And then later on in the afternoon, we would have our meal. So for starter, we would have melon, or I like to have like salmon or prawns with some sauce. And for the main meal, we would have obviously turkey, ham, gravy, potatoes, roasties, as we call them, just roast potatoes, vegetables. And then for dessert, I can't eat Christmas pudding because I'm allergic to nuts. So what I normally like to eat is just like a plain sponge with some icing, or also just some custard. I'm not sure if you know what custard is. It's like a thick yellow dessert, kind of. It's kind of between a solid and a liquid. So I would have that, and then afterwards I'd just chill, watch movies, and then on Boxing Day or the day after, my auntie and uncle and my cousins normally come to our house, and we have some food and drink and just some time together.
In Deutschland feiern wir Weihnachten am 24. Wir schmücken morgens mit der Familie den Christbaum und gehen dann gegen Abend alle zusammen in die Kirche. Abends essen wir dann zusammen mit meinen Großeltern, meistens Kartoffelsalat und Würstchen, und dann packen wir Geschenke aus und verbringen den Abend zusammen. Und ein Neujahr feiern wir meistens mit Freunden. Wir essen zusammen, meistens Raclette, und dann schauen alle das Feuerwerk an, das jeder in Deutschland selbst machen kann.
新年的时候，我在中国和朋友一起跨年。
My name is Laura Caporelli. I'm from Mannheim in Germany and studying Romance languages. My holidays have been good. I was happy to see my family and my friends in Germany again. But in the same time, I couldn't wait to come back to France. We celebrate Christmas with family, and mostly on New Year, I celebrate with friends, as I did this year. I don't think it's very different from France how the New Year is celebrated, but as my father is from Italy, he cooks Italian plates on Christmas or on New Year's Eve, and it's every year a surprise, and I like it. And my favorite part of the holidays was the New Year, because I love fireworks.
So spraeil am salán olog is lá an tábhachtach é in air in fós. Íhe nolog digan á os glímid ar brontanis agus teimid ar afrin. Harth ar seachta clog san íhe. So tain an tailach ar fad le chéile ar afrin agus is das an roddhain a cors an eichal freisin. An son ar lá nolog bíon tais béle i gachéin dana agus an son íhe cyn blíana ní le ma hailach a bháin a bhí amach téim amach le ma chárda agus stocha sin an roddhain an dína an éir an go generálta tain tí dhamach agus I Kiloras, the Tachtarna Bader, Le Corda. So, she needed, I suppose, the Nosna, is small in air in the Lahan Hora, Temple Nanolog.
Hello, my name is Peyman Najafi. I am from Iran. I am studying in neuroscience. I'm a PhD student here in Brest. About the traditions in my country. In my country, first of all, our New Year's Eve is different. For you, the New Year's Eve is the first of the January. For us, the New Year's Eve is the first day of the spring. It's, our calendar is based on that. And it's around 22 March. Tradition of the New Year is mostly based on families. We go to first. Normally, we would try to be in a grandparents or people, older people's house for the New Year's Eve, because for us, they calculate the exact time of the New Year's as because it's based on the sun. For that reason, it can be any time of the day. It can be 2 o'clock in the night, 6 o'clock in the morning. It depends. It depends. Every year, it changes.
Hello, my name is Milagros Bargassi. I'm Argentinian and I'm studying at ENIM. In my country, to celebrate New Year, we make a dinner with the family. We start at 10 p.m. Normally, each member brings a different plate. My favorite is vitel toné. It's meat with a special sauce of tuna. Then, when the bells of midnight rings, we do the countdown. Everyone make hugs to each other, and then we go outside and we see our own firework. It's really beautiful, and I love staring at those lights.
Alors maintenant que vous avez eu une vue globale, penchons-nous sur un exemple plus concret avec Mélanie, membre de l'équipe de Radio Calliope. Bonjour Mélanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail l'événement que vous avez couvert pour le reportage que vous nous proposez aujourd'hui?
Alors, pour vous parler des célébrations du Nouvel An, je me suis rendue le 10 janvier au BH Café à un Hanyujiao. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Oui, je sais, c'est le coin chinois.
Bravo Sonia. Alors, le coin chinois, c'est un rendez-vous organisé par l'Institut Confucius de Bretagne une fois par mois au BH Café. C'est l'occasion pour les sinophones et les francophones d'échanger en chinois ou en français. Et c'était donc l'occasion rêvée pour Radio Calliope d'aller à la rencontre de ces apprenants de langue étrangère et de leur demander de nous parler du nouvel an chinois qui arrive bientôt.
On écoute ça tout de suite.
大家好，我叫胡雅琪，我现在在布雷斯特读英语语言学 L2。
Bonjour à tous, je m'appelle Rouyasti, je viens de Qingdao dans le Shandong. Je suis en L2 LEA à Brest. Quand je suis en Chine pour le Nouvel An, je passe le réveillon avec mes amis.
Je m'appelle Li Xing, j'ai 25 ans. Pour l'instant, je suis étudiante de Master 2 de français langue étrangère. Nouvel An chinois, c'est une occasion surtout pour la famille et pour moi. C'est une occasion de réunion pour la famille, c'est une fête familiale en tout cas. C'est le moment pour la famille, pour après une année occupée, pour chacun, pour se réunir surtout.
Et je m'appelle Tan, c'est dans le Master 2 le français langue étrangère. Et après, et j'ai 23 ans. Je suis beginoise. Oui. L'habitude ici, c'est parce que moi, c'est du nord. Donc moi, c'est plutôt faire les raviolis avec les familles. Oui, et puis on mange au menu. C'est vraiment au menu, on mange les raviolis. C'est pour vraiment la bonne chance. Quoi.
Salut, moi, c'est Maurice. Et je viens de la Guinée. J'ai commencé les cours à l'Institut de Bretagne du Finistère. À Brest, il n'y a pas longtemps. Ma mère est chinoise et mon père guinéen. Nouvel An chinois, le plus souvent, ma mère elle fait des raviolis. Non, des raviolis, des fois. Oui, des raviolis, on mange en famille, on invite des amis.
Vous écoutez toujours Radio Calliope. Merci à Hu Yati, Li Xing, Dan et Maurice d'avoir partagé la tradition du Nouvel An chinois avec nous. Nouvel An chinois est célébré cette année le 16 février. Entre-temps, l'heure du déjeuner approche et pour présenter notre recette mensuelle, nous revenons encore une fois en Russie.
Avec Pavel, un de nos invités d'aujourd'hui, nous passons du studio à la cuisine. Aujourd'hui, Pavel va nous apprendre à faire un plat qui reste typiquement russe malgré son nom français, la vinaigrette russe. Pavel, je pense qu'il faut commencer par le fait que la vinaigrette russe, ce n'est pas du tout une sauce, c'est...
Une salade, tu as raison. Et elle se trouve toujours dans le menu de n'importe quelle fête parce que ses ingrédients ne coûtent pas cher et sont toujours sous les mains.
Est-ce que tu connais l'histoire de ce plat et pourquoi il s'appelle comme ça?
En fait, l'histoire de la vinaigrette reste plus ou moins un mystère. C'est sûr qu'elle tient son nom du mot français vinaigrette, une sauce à base de vinaigre et d'huile végétale. Ces deux ingrédients figurent bien dans des recettes de la salade russe, même si le jus de citron se substitue souvent au vinaigre. La vinaigrette est devenue vraiment populaire à l'époque soviétique et fait désormais partie du patrimoine culinaire russe.
Je sais qu'il existe plusieurs recettes de vinaigrette. C'est lesquelles que tu vas nous proposer aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous allons faire la vinaigrette selon les recettes classiques. Давайте начнем.
Alors, commençons.
Чтобы приготовить винегрет, нам понадобится.
Pour faire la vinaigrette, nous allons besoin de
400 g свёклы,
400 g de betterave,
300 g моркови,
300 g de carottes,
400 g картофеля,
400 g de pommes de terre,
200 g квашеной капусты,
200 g de choucroute.
200 грамм маринованных или соленых огурцов.
200 грамм до конкомбр у до гро корнишон экрду.
150 грамм лука.
150 грамм доньон.
Соль.
Ампе де сед.
4-5 столовых ложек растительного масла.
4-5 куьер а кафе дюль вежеталь.
4-5 столовых ложек лимонного сока.
4-5 куьер а кафе де жю де ситрон.
И из этого количества ингредиентов получается 6-8 порций.
De cette quantité d'ingrédients, on peut préparer la vinaigrette pour 6-8 personnes.
Для начала свеклу, картофель, морковь нужно отварить с готовности, остудить и очистить. Я это сделал заранее.
Tout d'abord, il faut faire cuire les betteraves, les carottes et les pommes de terre, les peler et laisser refroidir.
Затем мелко нарежьте лук.
Coupez les oignons.
Нарежьте огурцы кубиками.
Купе ле конкомбр ан пти де.
Нарежьте морковь, свеклу и картофель кубиками.
Купе ле карот, ле бетрав и ле пом де тер ан пти де оси.
Смешайте все ингредиенты и немного посолите.
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier et ajoutez un peu de sel.
Заправьте растительным маслом и лимонным соком.
Ajoutez l'huile végétale et le jus de citron.
Наш салат готов. Приятного аппетита.
Et voilà, notre salade est prête. Bon appétit. Спасибо, Павел. Merci, Павел.
Пожалуйста.
Je commence à avoir faim maintenant. Vous êtes toujours sur Radio U 101.1 et vous écoutez Radio Calliope, l'émission 100% langue. Merci de nous avoir mis en appétit. Mélanie est avec vous, avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir tous les événements en langue étrangère à Brest et aux alentours. C'est la chronique à ne pas manquer. L'actualité des langues, c'est maintenant. À vous, Mélanie.
Bienvenue dans l'agenda des langues, une sélection non exhaustive d'événements dans toutes les langues. Ce mois-ci, on vous garantit que vous n'allez pas vous ennuyer. Et la sélection débute sous le signe du cinéma. Dès ce soir, à 20h, pour rester dans l'ambiance slave, on vous invite à aller voir au studio Faute d'amour, un magnifique drame russe. Ça ne vous coûtera que 3,50€ grâce au festival Télérama. Dans une semaine, on part au Tibet avec Tarlo, le berger tibétain. Un ciné-débat animé par Molly Gilbert Chatalik, spécialiste de la littérature tibétaine à l'UBO. C'est donc vendredi 2 février, toujours à 20h, toujours au studio. Et dernier film de cette sélection, mardi 6 février, débutez la soirée à 20h au cinéma devant Human Flow, un documentaire de Ai Weiwei sur la crise des migrants et ses terribles répercussions. Humanitaires, pardon. Puis on pourra ensuite se réchauffer le cœur avec la soirée Kadamta ou Chantons en breton, organisée par Brezhoneg et Brest au Tirnanog, donc en bas de Siam, pour ceux qui ne connaissent pas. La soirée débute à 21h et se termine à minuit. Le lendemain, mercredi 7 à 19h, écoutez des extraits de Peinture en esquisse, premier roman de Muzinga Mwatiki, au BH Café. Ce café littéraire est organisé par Ekima Media, une toute jeune maison d'édition camerounaise. Après avoir entendu toutes ces langues, vous aurez sûrement envie de pratiquer. Alors rendez-vous à la Maison pour tous de l'Arteloire, jeudi 8 à 18h45 pour un apéro langue. Pensez à apporter une spécialité culinaire de chez vous. Lundi 12 février à 19h30, l'Institut Confucius de Bretagne vous invite à fêter le Nouvel An chinois avec un concert Mélodie du printemps à la salle du Clousse. C'est gratuit. Mercredi 14, c'est la Saint-Valentin. Que vous soyez seul ou en couple, venez parler des traditions de la Saint-Valentin au coin chinois à partir de 18h30 au BH Café. Vous pourrez enchaîner au Tudor à 21h pour le Language Exchange Evening. Organisé par Brest International, ce rendez-vous a lieu toutes les semaines. Pour finir, enfin, le mois de février en beauté, l'association Gwenou Mali et la ville de Gwenou vous proposent un week-end malien du 23 au 25 février. Au programme, des contes, un concert et un repas. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.gwenou.bzh. Alors c'est fini pour l'agenda des langues. Si vous avez des événements à partager, n'hésitez pas à envoyer vos infos à contact@radio-u.org. Nous nous ferons un plaisir de les annoncer. Enjoy!
Merci Mélanie. Nous arrivons à la fin de notre première émission de Radio Calliope de l'année. Merci à nos auditeurs, à nos invités et notre équipe de bénévoles d'avoir participé à la préparation de cette émission. Merci à nos invités Katia Dziabka, Pavel Shishkanov et Zara Gainulina. Je m'appelle Sonia Chankina.
Et moi, Marlène Jones. Nous sommes lectrices de langue à l'Université de Bretagne Occidentale. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une émission 100% langue, accompagnée une nouvelle fois des étudiants et professeurs de l'université. Notre prochaine destination est la Chine, à ne pas rater.
Nous allons vous laisser avec la chanson du groupe russe Secret, Последний час декабря, la dernière heure de décembre. Merci encore de nous joindre ici sur Radio U et à la prochaine. Хороших выходных и до встречи.
Have a nice weekend, everyone. Bye.
Растворились фонари, стрелка замрет.
Последний час.